Bonsoir à tous.
On a Khaled aussi avec moi dans la bulle.
Salut.
Et donc derrière la paroi là-bas, ça s'agite beaucoup. On a Johan, très concentré.
Ouais, un peu furax parce qu'on a eu un problème technique et on ne sait pas pourquoi. Mais bon, c'est parti, donc l'émission...
C'est rock'n'roll, quoi.
On a perdu les systèmes de refroidissement.
Tout va bien, vous êtes là.
D'ailleurs, ça m'a traumatisé. Bon, j'ai dû foutre une minerve parce que je suis passé à quelques kilomètres de Fukushima et là, j'ai pris la dose. Et puis, on a Rebecca aussi. Qu'est-ce que tu manges, Rebecca? Tu pourrais nous amener quelque chose à manger
parce que je vois. Je mange une concombre.
Mais c'est quoi?
Et donc... Mais non, et du coup, c'est Cyril qui est venu nous rejoindre avec à boire plutôt.
Salut.
Donc ce soir, la bande à Weber, ce qu'on vous propose, apéro presse, je bouffe du becquerel. Alors pour démarrer, qu'est-ce qu'on a pour démarrer? Oui, on a Khaled, ce soir, tu vas nous parler un petit peu d'une revue qui s'appelle Sprada. Je crois qu'on démarre par ça. Oui. Puis on enchaînera aussi sur le Grand Prix des Jouets 2010. Tu nous expliqueras aussi ce que c'est. Et puis on discutera un petit peu gaz de schiste. Pas gaz de schiste, hein, gaz de schiste, Clément qui
gaz de schiste aussi,
fini,
mais...
sa pizza.
On en discutera.
Et puis également on parlera de relax. Alors c'est pas relax max, hein, c'est de relax. Non, des procès. Mais en attendant, d'abord, on va démarrer avec Khaled. Tu nous parles ce soir d'une revue, en fait, qui a été une... C'est la culture, c'est de la pub. J'ai pas bien compris, là. C'est quoi,
alors,
ce bordel?
En fait, donc, c'est une revue qui s'appelle La Strada, qui est un journal culturel qui a été considéré, en fait, par des douaniers comme toxique et comme assimilé, en fait, à de la publicité.
Parce qu'elle venait du Japon?
Comment?
Parce qu'elle venait du Japon?
Non, c'est la radioactivité qui vient du Japon, mon cher Flo. Ce n'est pas
la publicité.
Pas la publicité. La publicité vient de partout déjà actuellement. Pour expliquer ce que c'est cette histoire, c'est déjà en fait en rapport avec les chroniques anti-pub qu'on fait. Et notamment, donc justement, on considère un peu la publicité comme incitant à consommer. Donc du coup anti-sobriété, et ça nous amène donc à consommer encore plus, d'où cette chronique qui remet ça en question. On avait déjà parlé des journaux gratuits auparavant, en parlant de pub matin, pub soir, métro, tous ces jours et 20 minutes, tous ces journaux là où justement on a critiqué un peu les journaux dits gratuits avec publicité. Et là donc dans ce cas précis de La Strada, donc ça se trouve dans le coin de Nice, et donc c'est un journal qui est culturel, donc niçois, qui est tiré à hauteur de 40 000 exemplaires. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des douaniers donc qui sont allés voir du côté de ce journal ce qui se passe, et ils ont considéré donc ce journal comme un prospectus publicitaire, c'est-à-dire que vu que c'est un journal dit gratuit, ils disent que voilà, enfin en gros, il y a les deux tiers dedans, c'est de la pub, et en plus il y a les articles qui sont assimilés à de la publicité dedans, d'où ils disent que ce journal doit payer donc la taxe Ecofolio qui vise donc à financer le tri et le recyclage du papier. Donc voilà un peu l'histoire de ce journal. Et c'est quand même un cas intéressant. Moi, j'ai essayé de trouver le journal sur Internet, parce que mon Nice, c'est quand même un peu loin, je n'avais pas en commandé, pour pouvoir juger de moi-même si c'est vraiment un journal qui est à fond publicitaire ou non. Et je n'ai pas réussi à le procurer.
Tu n'as pas pu juger par toi-même.
J'ai pas pu juger par moi-même si ce journal était vraiment... vraiment
un
quelque
sac
chose,
à pub.
Un sac à pub. Donc, selon les douanes, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plus de tiers des deux tiers de publicité dedans. Et la plupart des articles donc, tendraient à favoriser, donc là, je cite un article qui est paru dans les arts occultibles sur Internet, qui vise à favoriser la vente de produits ou de services et se conclut par les calendriers, horaires, adresses et numéros de téléphone des lieux dits spectacles. Donc voilà, enfin en gros, c'est ce qu'ils prétendent. Ce qui pose du coup la question sur, et là aussi j'ai pas pu trouver de choses là-dessus, parce que les gens de La Sprada, eux, ils se considèrent comme un journal d'information culturelle. Enfin, c'est ce qu'eux, ils prétendent. Ils étaient un peu catastrophés par ce que disaient les douanes à ce niveau-là. Et quand même, c'est assez important parce que d'après donc, cet article que je vous cite, il y aurait même 130 titres de presse qui pourraient être inquiétés. Parce que ce n'est pas le seul journal qui est un peu.
Parce qu'on a des équivalents, par exemple, sur Paris, un peu dans cet esprit. Bah,
moi-même, je lis Lilo en ce moment. Je trouve ça voilà.
Parce que ça ressemble à ça, en fait, hein, un peu Lilo.
Il y a de la pub pour des concerts. Bon, là, l'idée, c'est que Lilo, c'est plus en agenda, alors que là-bas, voilà. À Nice, il y a des articles qui accompagnent un concert, un événement.
Mais la critique est dans la citation, ils disent, voilà, ils concluent par les calendriers, horaires, adresses et numéros de téléphone des lieux dits spectacles. Donc en gros c'est quand même
c'est de la pub éhontée.
Alors là moi je sais pas, je peux pas juger, comme je dis j'ai pas vu, donc du coup je me suis dit voilà, on peut comparer à Lilo. Après ça m'amène à se poser la question, est-ce que Lilo paye aussi l'éco-taxe ou non, des choses comme ça. Donc c'est juste un cas intéressant parce que dans notre vision à nous, où on critique un peu les journaux dits gratuits dans l'anti-pub. Et donc, justement, ce journal où il y a quand même une quinzaine de salariés qui est du coup menacé même de fermeture parce qu'ils doivent payer les 125 000 euros que leur demandent les douanes. Donc voilà, c'était. Et du coup, en fait, M. Mitterrand, qui est donc ministre de la Culture, soutient donc ce journal et donc on parle même d'exception culturelle pour le cas de ce journal.
Bon, c'est donc.
Ouais, c'est assez rigolo de parler d'exception culturelle, mais c'est sérieux. Hein. Justement, ils disent que la taxe est trop exorbitante. Hein, et donc, c'est pas lui directement, c'est la commission paritaire qui prévoit une exception pour les supports d'information culturelle et sportifs, qui est un peu ce cas-là. Donc, c'est intéressant déjà de découvrir qu'il y a une exception culturelle par rapport à ces journaux-là, qui ne sont pas considérés comme des prospectus. De 1, de 2, donc il y a un jugement qui devait avoir lieu le 30 mars mais a été reporté en septembre. Là-dessus, j'ai bien cherché parce que j'ai trouvé l'info sur un site. Et ça posait un peu cette question, c'est-à-dire s'il y a une jurisprudence qui apparaît là-dessus, là vraiment beaucoup de journaux devraient donc s'inquiéter parce qu'il y a plusieurs cas quand même. Enfin, moi-même, quand j'ai jugé d'autres journaux comme Direct Matin, enfin Pub Matin, pardon, et Pub Soir, surtout, où on voit qu'il y a plus de publicité que d'informations. Et encore, je n'ai même pas, enfin, dans les pages, au niveau des pages qu'il y a, et encore, je n'ai même pas compté les articles où il parle de produits de consommation, comme là où il est spéciaux Noël, des choses comme ça.
Oui, surtout pour des choses qui n'ont rien à voir quand tu lis l'actualité France ou internationale et puis ils te mettent un film ou ils te mettent un produit de consommation en face, qui n'a rien à voir. Que là, c'est un journal bon, qui te parle quand même d'événements culturels et en face, ils te mettent aussi ce qui peut intéresser le lecteur et ce qui n'est pas un produit de consommation standard dans le sens où c'est aussi...
C'est une question qui se pose.
Socialement, c'est important quand même. Après, que les gens sortent de chez eux, qu'ils aillent voir des concerts, qu'ils aillent se bouger un peu. Et voilà.
Après, moi, je te dirais que si on peut se poser la question sur l'objectivité de la critique culturelle de ce journal, s'il est dépendant à 100% de la publicité qui en émane. Donc, une double question peut se poser aussi là-dessus. Comme j'ai dit, là, c'est difficile en fait, de juger vraiment là-dessus parce que. J'ai pas pu voir directement dans mon investigation journalistique ce journal, ce qui pose une limite. Donc, de toute façon, leur procès est reporté à septembre, à ce que j'ai compris. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Soit dit en passant, le directeur régional donc des douanes des Alpes-Maritimes a fait une proposition à La Sprada de réduire quand même l'amende à 10 000 euros parce que c'était un peu trop exorbitant. C'est très aimable de sa part. C'est en échange le journal refuse qu'on le reconnaisse comme imprimé publicitaire, tout simplement. C'est une question d'honneur quoi, pour eux. Donc,
principal objectif de l'envoyé très très spécial qui se retrouvera en PACA, hein, c'est de récupérer justement un exemplaire.
Ah, d'Aurélien.
Aurélien, si tu nous écoutes, n'hésite pas à te procurer le dernier exemplaire de La Sprada.
et à nous rapporter rapidement. Et à ce sujet, je voulais dire qu'en fait, la campagne de com sur le prospectus dont on a parlé la dernière fois.
Prospectus.
Voilà, le prospectus voilà, qui sauve les arbres et qui sauve la planète, bien sûr.
C'est informatif.
Voilà. En fait, a été attaqué par, je crois, le réseau Action Climat. J'ai vu cette information sur le site Univers Nature. Enfin, je n'ai pas là sous les yeux, mais ça a été attaqué en justice comme greenwashing, comme, on va dire, fausse information, etc. Et devant aussi le, alors je sais pas, le bureau de vérification de la publicité, mais enfin l'organe qui contrôle en fait le contenu des pubs et puis toutes les déviances qu'il peut y avoir. Donc affaire à suivre.
Il y a des infos sur le site du RAC où on peut trouver
Oui, je pense. Puis aussi sur Univers Nature.
Ok, on peut aller voir. Puis on peut très bien aussi aller voir le site internet du prospectus, puisque c'était J'aime mon prospectus.
L'Observatoire hors médias, je crois.
Voilà.
Enfin, on a regardé l'émission du mois de février, du dernier jeudi donc, où Rebecca en parlait très bien.
Alors, c'est marrant quand même de devoir faire de la pub pour les prospectus quand même. Les prospectus sont peut-être l'un des produits publicitaires numéro un qui est critiqué par tout le monde. C'est-à-dire que, enfin, moi, j'en remarque, en tout cas, c'est le truc qui saoule le plus les personnes. C'est ah ouais, dans ma boîte aux lettres, je reçois plein de prospectus, alors j'en veux pas.
C'est pour ça qu'ils font une campagne pour redorer leur blason.
Ouais, c'est quand même.
C'est un peu l'objectif.
Bon, tant qu'on est dans les pubs, là, j'ai entendu parler du Grand Prix des Jouets 2010.
Oui, tout à fait.
Donc, Khaled. Donc, qui est le grand vainqueur?
Alors, le grand vainqueur.
Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est en fait ce Grand Prix des Jouets 2010? Parce que comme ça,
alors,
ça fait un peu.
C'est un Grand Prix, donc.
Enfin, c'est celui qui a le train.
Donc, j'ai
vu
ça sur le site de la Redoute. Hein, c'est le Grand Prix donc, qui a eu. Oui.
Tu lis la Redoute?
Non, mais je reçois une critique de ce qui se passe dessus en général. Sinon, en tant que journaliste, j'ai fait quand même à la recherche aussi des choses. Donc Logo, c'est le jeu qui a gagné en fait, donc c'est le jouet 2010, donc sur ce site internet là, et donc c'est un jeu de société familiale sur les marques et les produits de notre quotidien.
C'est bon ça.
Donc c'est assez marrant parce que quand vous voyez le jeu, vous avez tous les logos des jeux, enfin pas que des jouets pardon, des produits de consommation. Ça m'a assez amusé qu'en plus, comme par hasard, ce jouet a gagné en plus l'année 2010. On se demande quand même que c'est quand même pas mal de valoriser ce genre de jouet.
Mais le but du jeu, c'est quoi? C'est de retrouver le produit qui se cache derrière le logo, en fait ou
Alors, donc en fait, les joueurs, en fait, donc ils doivent comparer. Enfin. Ils doivent marquer en fait dans leur mémoire. J'ai pas joué au jeu, hein. J'ai pas voulu l'acheter par principe parce que je me serais trop fait influencer par ce jeu. Mais en gros, en fait, il y a des questions dedans dans ce jeu. D'après ce que j'ai lu dans le site, donc il suffit donc de bien répondre à des questions pour avancer son pion et atteindre le premier la case finale. Hein. Voilà, c'est typique et assez basique comme jeu. Et il y a donc 1600 questions sur les marques les plus connues, dont la moitié sont illustrées. Il faudra reconnaître, par exemple, les logos coupés et associer le visuel à sa marque.
Donc, quand on joue à tester ce jeu, on explose le quota de pubs vues par jour. Là, je ne sais plus combien c'était. On était 1500 fois stimulés par jour.
On paye pour une pub, quoi. C'est ça qui est marrant. Enfin, mais oui, non, mais on expose en plus ce quota, mais c'est aussi moi je me dirais que je voudrais bien voir des gens qui jouent à ce jeu pour voir comment ils mémorisent aussi les logos, des choses comme ça.
On peut demander à notre envoyé très spécial, justement.
On voit où aux États-Unis on voit des gamins qui apprennent quasiment à lire avec des pubs.
Ah ouais, intéressant, hein, je savais pas donc. Je connaissais pas du tout ça.
Le clown McDonald ou
mais ça c'est Logorama, c'est le
ce genre de personnages sont parmi les plus connus parmi les enfants dès leur toute jeune enfance.
Non mais là-dessus bien sûr, mais il y a un film d'ailleurs qui a pas repris ça, c'est Logorama, hein, je crois que ça s'appelle. Mais enfin bon, en gros c'était juste pour dire que ça m'a fait assez halluciner. De voir un jeu avec des logos qui représentent quand même un peu le symbole de la publicité encore plus Et donc voilà, le temps de cerveau disponible, autant l'utiliser bien comme il faut là-dessus. On peut aussi considérer que c'est de la culture sur les, ces logos-là, mais bon. Donc voilà, encore une invasion de plus.
Concernant les logos, est-ce qu'on est toujours... est-ce que le panda a récidivé parmi ses partenaires multiples? Il paraît que c'est un logo, c'est vrai qu'on voit pas mal partout. Alors est-ce que Ralette a deux mots à toucher là-dessus ou alors saute directement
Je me suis intéressé là-dessus sur ce qu'on appelle donc les collabels de WWF, vu qu'on parle des logos. Et donc, c'est un article de Bastamag qu'on connaît bien hein, chez nous parce qu'on le lit souvent. On les a même déjà invités ici à l'émission. Donc, sur bastamag.net. Et dedans, justement, ils posent la question sur les collabels de WWF où ils disent justement, l'article s'appelle « Développement vraiment durable ou simple greenwashing ?» Parce que c'est quand même marrant de la part d'une entreprise, d'une ONG, pardon, de donner son logo à des multinationales qui sont très polluantes. Et donc, sachant que leur démarche à eux, c'est qu'ils donnent son logo et en échange, ils mettent sur des produits qui polluent moins.
Parce qu'en fait, c'est le principe, c'est les sociétés qui achètent l'image de WWF pour justement reverdiser leurs produits ou leur image vis-à-vis du public. Parce que c'est un peu, il y a des phrases assez intéressantes que tu nous citais tout à l'heure, comment vendre le produit Panda, quoi, en fait.
Voilà, en fait, donc en gros, c'est vraiment un produit qui est vendu aux entreprises, ils parlent bien leur langage, donc ils se comprennent très bien. Donc en gros, ils disent qu'en fait, pour les partenariats produits, donc je cite là l'article, les partenariats stratégiques hein, en plus, on prête pour les partenariats produits, on prête notre logo à une entreprise pour qu'elle valorise un produit qui a un intérêt écologique démontré. Donc c'est Julia Hack dans cet article, donc qui est directrice des partenariats entreprises de WWF France. Et donc c'est un logo en plus qui est bien connu des consommateurs, hein, puisqu'on le connaît tous depuis tout petit. Hein, c'est un peu comme tu disais tout à l'heure avec Ronald, hein, qu'on revoit souvent. WWF, on l'a souvent vu. Et là où c'est intéressant, c'est dans la communication, donc pour mettre en valeur ce service, hein, on pourrait dire. Donc ils soulignent donc sur leur site internet. Donc les avantages à être partenaire de leur logo. Donc ils disent ils mettent en valeur donc c'est un partenariat donc avec une ONG internationale pour donc ces entreprises sûrement internationales elles aussi. Ils disent que sont mis en avant donc la crédibilité scientifique de le premier critère d'information et de réassurance et la présence d'un label environnemental suivi de la communication pour que l'entreprise partenaire profite de l'image de WWF et du logo Panda. Et enfin, la confiance et force donc, du label Panda le WWF estime que 73% des Français continuent à faire confiance au label de certification sociale et environnementale et que le degré de confiance véhiculé donc, par leur logo est de 84%. Donc ils vendent vraiment bien leur logo pour que les entreprises... Ouais, ils sont forts, hein, vraiment.
Mais là, on pourrait presque faire une émission là-dessus sur comment...
Quelques petits exemples de ces sociétés très, très, très écolo.
Alors oui, dans l'article, il y a ces sociétés donc, qui font de sacrés efforts en écologie, partenaires donc, pour certains de leurs produits, donc WWF. Ils sont d'après l'article main dans la main avec 13 entreprises. Donc la plus ancienne est Carrefour, c'est l'exemple principal dans l'article qui est développé. Donc eux c'est en 98 qu'ils ont commencé ce partenariat, mais après il y a aussi l'école de commerce de Nantes, Audencia. Quelqu'un qu'on connaît très bien aussi ici, surtout pour la résurrection climat en France et international aussi, on pourrait dire, c'est Lafarge, donc un cimentier. Hein. Le Crédit Agricole, hein. Orange.
Orange.
Ouais, il y en a beaucoup. La Poste, La Fuma. Renette, Castorama et Ikea, donc, qui bénéficient tous donc, du soutien de WWF pour certains de leurs produits. Donc, ils sont engagés en échange à faire rentrer dans une démarche donc, de réduction de leur empreinte écologique. C'est quand même assez vrai que c'est un peu paradoxal de voir quand même cette facilité de prêter leur logo.
Mais on pourrait presque faire une émission sur voilà, de quelle manière, jusqu'où on se maque, est-ce qu'on se maque avec justement des entreprises polluantes pour faire changer, est-ce qu'on peut changer de l'intérieur, est-ce que c'est eux qui s'introduisent au sein de WWF, est-ce que c'est WWF qui introduit justement ces entreprises, qui change qui, c'est la question, savoir est-ce que c'est des actions pertinentes, on pourrait presque bon, lancer le débat là-dessus. Bon. Donc, du coup, ça me fait penser à une phrase que j'ai lue sur le site de Fondation Nicolas Hulot, parce que moi, je les adore. Et sur le site internet, première page, c'était marqué que bah, ça peut introduire pratiquement la thématique qu'on traitera après, c'est que le nucléaire est un moindre mal. Voilà, dixit Nicolas. Voilà.
Oui. Et en plus, quand même, WWF, j'avais lu dans l'article aussi qu'il prétendait qu'il limitait quand même... Il y avait quand même une limite hein, dans ce qu'il disait à ce niveau-là. Et, par exemple, le nucléaire, c'est, les entreprises nucléaires, c'est quand même une des limites, hein, parce que là, il serait vraiment...
Ah, bien.
Il ne se grille pas quand même à ce point-là.
Quoi, juste, on n'aura pas de panda à Areva.
Ça peut être un jour, mais pour l'instant, non.
Un gros panda sur une cheminée
centrale. Donc, ils se font financer quand même à hauteur donc, de 230 000 euros. Hein, pour obtenir donc, ce partenariat stratégique de WWF, sachant qu'ils disent qu'ils limitent à 30% de leur budget, c'est quand même déjà pas mal, hein, et donc il ne faut pas que ça dépasse les 30%. Ça va de 90% des sommes qui sont versées, donc des 230 000 euros par entreprise, sont versées donc, dans les caisses de la fondation.
Ok.
Et donc voilà, enfin bon, après l'article est très intéressant parce que ça va encore plus loin et j'aurai pas le temps d'en parler. Donc
c'est sur Bastamag.
Voilà, ouais, donc on clôt la chronique anti-pub là-dessus et puis on enchaîne directement, on parlait justement de Relax tout à l'heure, il me semble donc qu'il y a un procès des faucheurs qui a eu lieu, c'est ça?
Oui, Khaled. Je peux en parler vite fait en fait, ouais. J'ai assisté dernièrement, donc on avait déjà été envoyé comme envoyé très très spécial, la petite Lizou et moi donc au procès des faucheurs à Versailles. Donc où ils ont été condamnés de 58 faucheurs.
Vous devriez acheter en novembre. Une maison en face, comme ça, hein, vous seriez en permanence l'actualité est riche.
Mais ça se déplace justement parce que maintenant c'est à la Cour de cassation de Paris qui passe. Et donc c'est toujours sur cette condamnation. Ils ont fait appel donc, de cette condamnation qu'ils avaient eue. Et donc le jugement n'a pas été rendu. Moi, c'était juste pour signaler que ça sera rendu en mai. Ce qu'avait dit les avocats, parce qu'il y avait aussi l'avocat de Monsanto, le procureur et l'avocat donc, des faucheurs, était très intéressant. Il y avait aussi sur l'ADN d'ailleurs.
Sur l'ADN, c'est un autre procès, mais ça concerne toujours le fauchage d'OGM.
Et non, il y avait aussi sur l'ADN pour le procès dont je parle.
Ah d'accord, parce que moi je parle donc d'un autre procès.
Une autre affaire.
Une autre affaire tout à fait toujours liée au fauchage de maïs OGM Monsanto. Là, ça se passe dans le Maine-et-Loire, donc c'est trois faucheurs. Qui ont fauché en 2007 et qui ont été condamnés en 2010 à 1 euro symbolique d'amende pour avoir refusé le prélèvement d'ADN. Bon, on peut se dire 1 euro symbolique, c'est pas grand-chose, mais là, ils ont été carrément relaxés par la cour d'appel d'Angers.
Ouais.
Parce qu'en fait, ce prélèvement d'ADN n'était pas justifié. Donc la cour d'appel d'Angers a relevé que la loi du 25 février 2008 définissant le délit spécifique de destruction de champs transgéniques, attention c'est précis, n'impliquait pas d'obligation de prélèvement d'ADN. En fait, oui, effectivement, les faucheurs ne sont pas des criminels. Et puis, bon, on pourrait en parler longuement sur le prélèvement d'ADN. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc en février dernier, ils ont été relaxés complètement. Voilà.
Du coup, on a une actu aussi sur les... parce qu'on avait fait une émission sur les gaz de schiste. La dernière fois avec la bande à Bébert, c'était la bande. Oui, c'était la dernière fois.
Au mois de janvier, je crois. Non,
c'était au mois de janvier. Bon, c'était en début d'année.
Ça commence à remonter. Gaz mais
à
ça
tous
reste,
les étages.
Ça reste d'actualité, fortement d'actualité.
On voit beaucoup d'affiches maintenant dans la rue.
Oui,
justement.
Alors il y a des partis politiques qui reprennent un peu cette histoire de gaz de schiste, qui montent au créneau. Il y a des collectifs qui se montent. Donc notamment là, le collectif Île-de-France non au gaz et pétrole de schiste, qui s'est monté il y a un mois et demi, deux mois. Donc il y a une une diffusion, une projection demain, vendredi 1er avril, au comptoir général, du film Gazland, en fait, que j'avais déjà annoncé la dernière fois, je crois. À chaque fois, c'est le lendemain de l'émission, c'est pratique. Donc au comptoir général, 84 GMAP, Paris 10e, Métro République ou Jacques Bonsergent. Donc de 19h30 à 22h30, donc le fameux film Gazland qui est vraiment très bien. Je l'ai vu depuis et franchement, je vous encourage à aller le voir.
Tu sais s'il y a un débat après
Oui, sans doute. Alors, il fait 1h30, 2h, je crois. Donc il y aura peut-être une petite heure de discussion autour de ce qui se passe aux États-Unis, en Amérique du Nord de façon globale et puis aussi en Europe sur les résistances qu'il y a face au gaz de schiste. Et d'ailleurs, ça s'organise et il commence à y avoir des collectifs un peu partout, dans la Drôme, en Ardèche, autour de Montpellier, etc. En Ile-de-France, on en a parlé. Et en Ardèche, notamment, il y a eu une grosse manifestation le 26 février. Il y a eu 10 000 personnes qui sont allées dans un petit bled à Villeneuve-de-Berg, donc un peu l'épicentre, on va dire, du permis d'exploration qui a été délivré par le ministère de l'écologie et de l'énergie à l'époque, Monsieur Borloo.
Qui depuis s'est débarrassé de l'énergie.
Voilà, tout à fait. L'énergie retournée à Bercy avec le ministère de l'Industrie. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais bon, toujours est-il qu'il y a une forte mobilisation un peu partout, y compris en Ile-de-France et en Picardie, où il y a aussi les premiers forages qui sont envisagés. Il y a aussi une manif récemment là, en Seine-et-Marne. Alors, j'ai pas eu le nombre de participants, mais bon, ça se mobilise bien. Il y a un peu d'innovation sur les slogans. Alors, il y a pas la peine d'insister, sarkozyste des gaz, ce genre de pancartes qui sont brandies. Ouais. Vous avez le gaz de ville, vous n'aurez pas le gaz des champs. Donc voilà, il y a pas mal d'innovations. Si vous souhaitez rejoindre ces collectifs, bien informez-vous localement. En Ile-de-France, donc demain, vous avez la projection de Gazland et vous pourrez prendre contact avec le collectif francilien sur ces questions-là. Donc juste pour rappel, ce que c'est le gaz de schiste, parce que si vous n'avez pas suivi l'émission du mois dernier, c'est en gros explorer un gaz non conventionnel qui est enfoui dans des roches profondes. Et donc fracturer ces roches, un grand renfort d'eau et de produits chimiques, avec une pollution certaine, avec un retour d'expérience aux États-Unis de nombreuses années et de nombreux dégâts.
Et donc l'émission est téléchargeable, d'ailleurs on peut la réécouter sur le blog
zoom-ecologie.net. Vous retrouvez toutes les émissions de Zoom Écologie. Voilà.
Ok, on clôt l'apéro presse. On va faire une petite pause musicale par la suite. On va parler de l'actualité, on va parler Libye et Japon, et de leur poids commun, c'est leur radioactivité. Vous verrez, on va traiter ça. Et donc là, qu'est-ce qu'on a, Rebecca, du coup, comme pause musicale? Est-ce que tu peux nous l'annoncer?
C'est les Clouds.
Ça, c'était,
quelle voix, Rebecca?
C'était Yohan qui a dit ça.
Oui, c'est parti.
Clouds, Tchernobyl.
Sur le toit, quatre plaques de métal fin qui masquent mon effroi. On m'a mis des gants puis on m'a dit balance le graphite en bas. Et donc j'attends et il fait chaud. Une à une je vois revenir des silhouettes de robots et leurs mains étranges ne se ferment plus. Elles tenaient des pelles là-haut. Plus que deux et c'est mon tour. Un sale goût dans la bouche, sensation de métal lourd, comme la pelle que je tiens dans mes mains. Ça y est, je sors et il fait jour. vidé de tout mon sang. Et où sont mes mains? Je suis vidé de tout mon sang. Du graphite sur le toit, quatre plaques de métal fin qui masquent mon effroi. On m'a mis des gants, puis on m'a dit balance le graphite en bas. Et donc j'attends et il fait chaud. Une à une, je vois revenir des silhouettes de robots. Et leurs mains étranges ne se ferment plus. Elles tenaient des pelles là-haut.
Vous êtes de retour avec la bande à Bébert sur Zoom Écologie, Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3. Donc c'est, ouais, c'est Johan qu'on a entendu, qui est venu nous rejoindre dans, autour de la table, cette pentagone, hexagone, je ne sais pas. Et donc je parlais tout à l'heure qu'on allait parler actualité avec la Libye. Pour commencer, quel est le point commun entre la Libye et Fukushima? Je pose la question. Allez, je vous donne une piste, alors, c'est la radioactivité.
Il faut nuancer un petit peu, mais il y a un point commun. Enfin, y a un...
En un tout cas, problème. C'est... Justement, alors on parlait de ça. Bon, tout le monde sait ce qui se passe en Libye en ce moment. La France y est impliquée tout particulièrement. Mais là, on voulait justement parler d'un point un peu plus spécifique, justement, dans cette guerre qui est en train de se développer petit à petit en Libye. Cyril, tu voulais nous toucher deux mots sur un point assez...
qui est lié à l'armement, aux munitions et à la probabilité quand même relativement forte pour que de l'uranium appauvri soit encore dispersé sur une zone de conflit.
Alors justement, en fait... Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est recontextualiser, c'est qu'il y a une résolution en 1973 donc, qui a été votée à l'ONU qui permet justement plusieurs choses. Donc, des pays comme la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis notamment, et d'autres pays encore, hein, de procéder donc, au recours à la force pour mettre en place une zone d'exclusion aérienne pour des raisons humanitaires. En Libye. Bon, maintenant, on sait que en fait, c'est plutôt une guerre, clairement, qui est faite. Enfin, la France ne suit pas derrière le droit international actuellement, mais ce n'est pas grave. En gros, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a, pour, justement pour ça, en fait, il y a des... Donc, mais la France n'a pas le droit... Enfin, les pays étrangers n'ont pas le droit d'aller sur... de mettre leurs soldats là-bas.
De débarquer sur place,
voilà.
Mais est-ce que c'est si catégorique? Parce que moi, il m'avait semblé entendre que c'était le problème de ces résolutions, c'est qu'il y avait une interprétation
elle
aussi.
Elle est
hyper large.
Et qu'elle excluait pas ça, en fait. Elle excluait une
interprétation. Elle est hyper large et hyper complexe. Et le sujet, c'est pas d'en parler. Mais en tout cas, il y a un truc qui est clair, c'est qu'il n'y a pas... les soldats, en gros, ne peuvent pas aller là-bas. Donc, du coup, là...
Oui, pour éviter le syndrome d'Irak, tout simplement, parce que les Libyens l'ont clairement dit, ils ne veulent pas d'un Irak dans leur pays, et cette résolution répond à cette demande, tout en laissant une marge de manœuvre énorme.
Donc, en gros, l'intervention du coup qui est faite se fait via des missiles, enfin via l'envoi donc de missiles. Tomahawk, pour l'article pour en tout cas qui nous concerne, des missiles en tout cas
pour les missiles américains, ouais.
Des missiles voilà à ce niveau-là pour aller donc pour intervenir vu qu'en en gros ils peuvent pas intervenir directement là-bas. Du coup, c'est fait comme ça. Et je suis donc tombé sur, enfin, en regardant là-dessus, moi, je m'intéressais plutôt à la guerre pour le pétrole, parce que la Libye, c'est comme l'un des pays de...
Tu veux dire que c'est pas pour les droits de l'homme et tout ça
Là, c'est un débat qui est discutable, mais en tout cas, les guerres pour le droit de l'homme, j'y crois pas. En tout cas, d'un État à un autre, ça s'est jamais fait. Mais en tout cas, il y a sûrement des intérêts, mais c'est pas là le sujet. C'est juste pour dire qu'en gros, en enquêtant là-dessus, j'ai trouvé donc sur le poste.fr un article qui dit « En Libye, des bombes à l'uranium appauvri pleuvent sur la population ». Et donc cet article prétend donc en gros qu'en Libye, les zones touchées sont en fait par des centaines de missiles donc de croisière Tomahawk. Et ils disent qu'en gros, il se trouve que dans les je ne connais pas après les détails, mais les empennages des missiles Tomahawk se trouvent des barres d'uranium appauvri de 300 kilos. Donc en gros voilà, en fait c'est ce qui est utilisé pour les anti-chars un peu plus en gros là-dessus.
C'est voilà. Des munitions anti-blindage. Alors sur le chiffre de 300 kilos, bon, enfin.
Alors oui, il y a une différence. C'est pas dans le Tomahawk, c'est peut-être pas forcément dans la pointe, c'est-à-dire ce qui sert à percer le blindage, mais c'est probablement ce qui sert à lester le missile. Et on retrouve ça aussi dans les avions, donc il faut faire attention un petit peu, ou dans certains réacteurs.
Sur des blindages de tanks aussi.
Et sur des blindages de tanks pour justement répondre aux fameux obus anti-chars qui sont, eux, faits en uranium appauvri. Qu'est-ce que c'est que l'uranium appauvri ? C'est l'uranium 238 purifié. C'est faiblement radioactif, mais c'est radiotoxique et radiochimique et chimiotoxique. Donc, si vous le manipulez, vous le sucez, comme ça s'est fait en Irak, quand les enfants ont récupéré les obus, vous intoxiquez gravement. C'est un émetteur alpha, même faiblement radioactif, donc fortement toxique. Donc, c'est un vrai problème, sachant qu'en plus, c'est pyrophorique, c'est-à-dire que ça se transforme, ça prend feu facilement, et donc ça se transforme en oxyde d'uranium, en poussière d'oxyde d'uranium. Qui envahit la zone de shoot, contamine le tank touché, par exemple, et reste sur place. Ça pollue.
Alors, pour les militaires, c'est génial. Hein.
C'est une catastrophe.
Parce que déjà, c'est un super anti-blindage. Ça traverse des épaisseurs de blindage. Il y a effectivement, c'est utilisé pour lester, mais aussi donc pour percer, pour perforer, pour entrer dans des bunkers, traverser du blindage, etc. Il y a principalement, enfin d'après les infos que j'ai un peu trouvées, il y a deux matériaux qui sont utilisés comme anti-blindage, c'est le tungstène et l'uranium appauvri. L'uranium appauvri a l'intérêt d'être très peu coûteux et pour cause, on en a en quantité, on ne sait pas trop quoi en faire. C'est un résidu, en fin de compte, de l'enrichissement de l'uranium. Donc l'uranium naturel est composé en très grosse partie d'uranium 238, donc de l'isotope 238 de l'uranium, et d'une faible quantité d'uranium 235. L'enrichissement de l'uranium qui va être utilisé pour renforcer la fissibilité, enfin pour pouvoir créer des réactions de fission, que ce soit dans un réacteur ou pour une bombe atomique. L'enrichissement de l'uranium, ça consiste à enrichir l'uranium en uranium 235. Donc de cet enrichissement-là, il y a des résidus d'uranium appauvri, c'est-à-dire que c'est de l'uranium qui va être moins riche en uranium 235 que l'uranium naturel. Donc cet uranium appauvri, il représente aucun intérêt pour faire une bombe atomique. Par contre, la densité du métal intéresse les militaires pour les raisons.
Il y a quand même un autre intérêt, Sud, fabriquer des conteneurs pour déchets radioactifs. Parce que voilà, c'est plus dense que
Exactement
le plomb.
Exactement, c'est ce qu'ils prétendent dans l'article aussi.
Ça limite le rayonnement. Bon, donc,
quand on parlait des émetteurs alpha, ça veut dire qu'aussi...
Intérêt entre guillemets, bien sûr.
En exposition externe, et c'est pour ça qu'on en trouve dans des blindages. Et que, en exposition externe, la radioactivité est de très faible portée et arrêtée très facilement, même, même, bon, par la peau. Par contre, en exposition interne, c'est-à-dire en l'avalant, en respirant des poussières, ça pose tout de suite plus de problèmes. Ça va se fixer principalement sur les poumons et les reins.
Et c'est le cas pour les militaires notamment, qui sont exposés massivement. Et
bien entendu, pour les populations autour. Voilà.
Et il y a eu de nombreux syndromes suite à la guerre d'Irak liés à cet empoisonnement-là par les militaires américains.
Donc on en a vu aussi au Kosovo, en Afghanistan, à Gaza. Les informations là-dessus sont les informations précises, c'est-à-dire en quantité de matériaux employés, et puis sont assez difficiles. On a parlé du missile Tomahawk américain. La France a aussi son missile de croisière qui a déjà été utilisé depuis le début de cette opération humanitaire, qui s'appelle le missile Scalp. C'est un missile qui est du même genre, c'est-à-dire qui est tiré à très longue distance, qui va par tout un tas de procédés de guidage, machin, épouser les formes du sol, etc., passer les radars et aller frapper un objectif, perforer plusieurs mètres de béton pour exploser ensuite. Donc la France en a déjà utilisé, je crois, une dizaine. On peut parler de tout ce qui est armes anti-char, les missiles Milan. Et alors le cas du missile Milan, il est intéressant aussi pour une autre raison, c'est que Kadhafi, il en a un certain nombre qui lui ont été par ailleurs vendus par la France. Et moi c'est un petit peu le deuxième point. C'est sûr que les armes à l'uranium appauvri, c'est inquiétant, parce qu'il y a des conséquences, qui peuvent continuer plusieurs années après le conflit.
Je crois que ça perdure encore au Balkan, d'ailleurs.
On n'a pas d'informations précises, savoir confirmer, être absolument certain que ça a été utilisé ou pas, mais bon, il y a quand même des fortes chances. C'est difficile comme ça, il n'y a pas d'infos précises. Par contre, bon, de toute façon, un missile bio, enfin, je crois que ça n'existe pas, tout simplement. Je crois que les missiles écolo, je ne sais pas si ça peut exister. Sur ce conflit-là, moi, j'ai quelques chiffres à donner quand même.
Peut-être avec le VVF, je ne sais pas, faut voir.
Ouais, peut-être avec des missiles Panda, peut-être ça pourrait marcher. Si je vous dis 72 millions en 2005, 59 millions en 2006, 108 millions en 2007, 250 millions en 2008.
C'est l'euro million.
Et c'est combien ? Bah non, en fait, tout ça, c'est les chiffres des ventes d'armes à la Libye, donc au régime de Kadhafi. Donc pour 2009, la France a vendu pour 30 500 000 euros de matériel militaire au régime de Kadhafi. Ça comprenait tout un tas de types de munitions qui vont du small gun, de l'arme légère, aux bombes, aux missiles, tout un tas de types de véhicules, des avions. Les avions de Kadhafi, ces fameux avions qui bombardent Benghazi, qui ont bombardé donc les villes rebelles, étaient des Mirages,
oui.
Dont un certain nombre ont été rénovés par la France. Je crois que c'est en 2000.
Pourquoi on a attaqué notre meilleur client
après voilà,
bon,
on a attaqué un très bon client, mais bon. On a bon espoir, comme on aura détruit tout le matériel, d'en revendre au futur gouvernement, ou voire même au même. Allez savoir.
On pourra recommencer dans 10 ans.
Alors, il y a un truc qui m'a interpellé, c'est qu'il y a une catégorie, parce que c'est découpé en catégories, les chiffres viennent d'un rapport de l'Union européenne, la catégorie ML7, Chemical, Biological Weapons, Tir, Gaz, Radioactive Materials. La France en a vendu pour 476 604 euros en 2009.
C'est son meilleur produit.
Alors, je ne sais pas ce que ça comprend. Hein. C'est peut-être que des matériaux de protection ou peut-être que c'est autre chose. On n'a pas le détail.
Khaled, tu voulais rajouter ?
En tout cas, je voulais juste dire qu'en gros, l'article en tout cas, disait que c'était un peu... Finalement, les habitants, ils montraient dans les infos, des trucs comme ça, les habitants qui sont fiers de monter sur les chars qui ont été détruits, en tout cas pour revenir au cas d'Alibi, et de se promener en famille, donc au beau milieu de la radioactivité due à l'uranium appauvri. Lui dit finalement, on sait ce que ça a fait au Kosovo et en Irak. Syndrome de la guerre du Golfe, dont vous en avez parlé tout à l'heure, c'est ce que la coalition appelle protéger les civils Donc voilà, c'était un peu paradoxal et je pense que c'était intéressant à noter.
Voilà. Alors, sachant toujours, qu'il faut nuancer, on n'est pas évidemment sur des taux de radiation qui sont équivalents autour de Fukushima, mais c'est quand même des matières, des poussières qui sont dispersées, qui vont contaminer le sol, les aliments, qui vont se concentrer dans certains végétaux comme les champignons, etc.
Bah super, si tu me permets de faire la transition. Donc l'actualité au Japon, c'est essentiellement, bon, il y a eu effectivement le séisme, le tsunami, troisième conséquence, on a Fukushima. Boum. Donc, qui c'est qui peut nous en toucher deux mots pour où est-ce qu'on en est à ce moment? Donc, l'événement a eu lieu, ça fait combien maintenant? Ça fait 4 semaines à peu près.
Trois semaines.
Donc, où est-ce qu'on en est très précisément sur justement l'actualité de nos chères 5 ou 6 centrales qui sont à Fukushima réacteurs?
Eh ben, c'est une vraie catastrophe nucléaire. Pas encore classifiée de majeure, mais c'en est une vraie. La situation n'est pas bonne, mais selon les Américains, ça s'améliore, dans la direction de l'amélioration. Dans les polémiques, plutôt, on a une polémique sur la zone d'évacuation qui, selon des associations ou des représentants officiels, devrait être élargie à 30 voire 40 km. Et qui n'est toujours pas élargi. Donc, les mesures qui ont été faites révèlent des taux assez inquiétants. Donc, des gens qui prennent actuellement des doses. Une polémique aussi sur la façon de résoudre, de trouver des solutions aux problèmes. Apparemment, les entreprises privées veulent régler le problème entre privés. Et ont tendance à un petit peu garder l'information ou... D'où certaines erreurs de communication.
Secret professionnel. Hein.
Voilà. Donc, faut dire que depuis à peu près une semaine, il y a un blackout qui est problématique parce qu'on n'a plus les vrais chiffres comme au début, enfin les valeurs qui permettaient de comprendre la situation exactement. On a des informations qui transitent via le circuit officiel qui sont très inquiétantes. La dernière correspondant au taux d'iode mesuré au large, entre guillemets, parce qu'on est encore à proximité de la centrale, de un peu plus de 4000 fois la norme du iode 131 mesuré dans l'eau de mer. 4000 fois, c'est énorme. C'est beaucoup plus qu'auparavant. C'est en augmentation, sachant que je crois que le samedi d'avant, sauf erreur de ma part, ils avaient mesuré des taux de l'ordre de 1000 fois environ, mais à 100 mètres. Là, on est à 300 mètres. Donc, visiblement, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des infos à vérifier qui mentionnent des emballements, des chaînes de réactions nucléaires dans le réacteur numéro 1, selon certains, à vérifier ça aussi. Mais visiblement, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'ils ont énormément de mal à maîtriser la situation, s'ils la maîtrisent. Ils veulent évacuer l'eau contaminée qui représente des valeurs trop élevées. Sur des barges, les fameuses barges qui ont ramené de l'eau douce pour le refroidissement, donc ça consistera à contaminer aussi les barges.
Parce que ça c'est un projet, alors j'ai pas...
Ça fait partie des solutions possibles.
Parce qu'on a tout vu, on a vu les hélicoptères, on a vu les pompiers,
Donc le sel...
presque les gens avec des seaux. Donc là c'est les barges là cette fois-ci.
Voilà, l'eau de mer commence à sérieusement poser des problèmes parce que ça doit cristalliser, donc former une couche de protection sur le corium refroidi qui empêche d'efficacement évacuer la température.
Attends, quand tu parles de corium refroidi, qu'est-ce
une partie, oui, parce que maintenant on sait qu'il y a plusieurs cœurs, au moins 3 cœurs ont fondu plus ou moins partiellement, mais dont un a percé une de la cuve et il y a des suppositions comme quoi il a commencé à attaquer le béton du confinement. Donc on a à peu près certain que la première barrière principale est tombée. Et comme on est dans un cas qui ne correspond plus à Tchernobyl du tout, on est dans des doses rejetées qui sont moindres dans l'atmosphère, mais visiblement dans l'océan, on serait probablement dans des doses équivalentes, vu les mesures faites. Et
donc on serait plutôt là sur une pollution de type maritime, qui avait moins eu lieu en fait à Tchernobyl. Enfin, il y avait eu quand même des pollutions des nappes phréatiques. Il y avait eu des nappes phréatiques quand même.
Polluées. Là, on est dans une. Alors, sachant que on sert beaucoup d'indicateurs l'IOT 131, mais dans la réalité, il n'y a pas que l'IOT 131. Il y a beaucoup de radioéléments qui sont produits, qui sont issus de la fission. Le xénon 131, le césium 141, le ruthénium 106, il y en a une quantité, strontium 90, des gaz, des aérosols qui sont plus ou moins, qui s'incorporent plus ou moins dans les, comment ça s'appelle, les éléments. Et
qu'est-ce qu'on dit la CRIRAL en fait de tout ça? On a entendu de temps en temps la CRIRAL, mais on n'a pas l'impression qu'il y ait un discours très.
La CRIRAL bosse à fond sur le problème et essaie de récupérer un maximum d'informations, fait même des traductions pour le Japon, qui n'a pas forcément les informations. Ils sont extrêmement mesurés dans leur communiqué, ils essayent d'éviter les alphonements inutiles, surtout quand il y a des petites erreurs, des petites coquilles qui se glissent dans les communiqués d'autres organismes. Pour l'instant, il n'y a pas d'affolement pour nous en Europe, c'est pas un gros problème. Par contre, au Japon, ouais, ils commencent à tirer la sonnette d'alarme sur notamment la zone d'évacuation, sur le manque d'informations et. Voilà, c'est visiblement loin d'être résolu et on est quand même on est dans une catastrophe nucléaire, probablement de niveau 6.
Peut-être sur une échelle de 7.
7 peut-être même 6,5 en prenant en compte la pollution dans la mer. Hein, et n'arrive pas à maîtriser la situation, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, sachant que tant qu'il y a de l'énergie, ça il faudra refroidir hein, de toute façon. Donc c'est pas loin d'être terminé et il faut surveiller attentivement ce qui se passe, notamment tout ce qui rejette en mer. Voilà.
Il y a des chances pour que la côte japonaise soit quand même assez gravement touché sur.
Sushi va être fluorescent dans la nuit.
Sur des dizaines de kilomètres.
Alors, difficile de garder d'être grave tout le temps parce que vraiment là, on a dépassé le stade de. Là, c'est vraiment. C'est extraordinaire ce qui se passe. Hein, donc, il faut décompresser un petit peu pour revenir. Devenir lucide.
Alors, on a eu la visite de notre cher président Atalonette. Au Japon, qui nous vante l'EPR comme étant beaucoup plus sûr, peut-être encore un moyen de faire le VRP. Je ne sais pas s'il a essayé de vendre une centrale au Japon. En tout cas, moi, j'espérais le voir en super-héros, en combinaison et avec son masque pour aller arroser les réacteurs. Mais bon, alors, il y a Anne Lauvergeon.
On va pas tout faire.
Il y a Anne Lauvergeon aussi qui est là-bas.
Bon, bah écoute, je la souhaite que sa combinaison soit bien étanche. Bon, bah de toute façon, je pense qu'on aura l'occasion.
Oh, elle n'est pas dans la centrale.
On aura l'occasion d'en parler aux prochaines émissions parce que, hélas, c'est une actualité qui risque de rester actualité justement pour encore quelques temps. Allez, on finit rapidement sur un digestif, agenda, si on a 2-3 choses à annoncer. Alors, moi, j'en ai une comme ça de tête. Il y a le contre-grenelle de l'environnement à Vaux-en-Velin. Donc, Vaux-en-Velin, c'est la banlieue de Lyon. C'est samedi 2 avril, c'est toute une journée de conférences sur l'ensemble des thématiques, justement, donc économiques, sociales, également environnementales. Donc la bande à Bébert va envoyer un envoyé très très spécial là-bas, ce qui permettra de justement faire un petit peu de retour là-dessus à la prochaine émission de la bande à Bébert pour Zoom Écologie. 2-3 choses à annoncer de plus, Raled, Clément, non, je ne vois pas de...
Rapidement, oui... Il y a une demande de référendum aussi qui est faite sur le nucléaire par des associations écologistes et d'autres. Je sais que les Amis de la Terre ont fait un petit communiqué dessus. Après, il y en a d'autres qui disent plutôt que le référendum, ce n'est pas une bonne idée. Ça va être encore un débat, un faux débat de plus. C'est l'Observatoire du nucléaire. Donc, ils disent maintenant...
Disons que c'est un risque.
Il vaut mieux demander la fermeture totale des centrales nucléaires tout de suite. Plutôt que de rester encore dans un pseudo-débat. C'est ça que tu voulais dire, Cyril ?
Non, c'était un risque aussi, ce référendum, parce que selon comment la question est posée, ça peut amener des choses différentes.
Ok, bah, alors Rebecca, qu'est-ce sur quoi on finit là? On va une pause musicale et puis moi je vous dis au nom de la bande à Bébert, de Khaled, de Clément, de Cyril, de Rebecca et de Johan, et surtout de Bébert, et comme disait Bébert,
salutations écologiques et solidaires.
Et on va terminer avec Janis Joplin, Ball and Chains. Something grabbed a hold of it, felt to me on the lack of a more.